Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan M. Béchour, Virginie Mourté. Nous sommes ensemble jusqu'à 5h du matin. La nuit de la radio. Nuit de la radio faisant suite à la journée mondiale de la radio sous le patronage de l'UNESCO. Et pour cette nuit de la radio, eh bien, les nuits de France Culture ont quitté Radio France, les studios de Radio France, 116 avenue du Président Kennedy, dans le 16e arrondissement à Paris. Nous avons traversé la Seine et nous nous trouvons place de Fontenoy dans le 7e arrondissement, au siège même de l'UNESCO. Alors, merci de nous accueillir et bonsoir à vous, monsieur le sous-directeur pour la communication et l'information de l'UNESCO. Bonsoir, Moez Chakchouk.
Bonsoir.
Alors, quand je dis que nous nous trouvons à l'UNESCO, je dois me montrer encore plus précis. Nous nous trouvons dans un studio de radio. C'est un petit peu logique pour faire de la radio. Mais un studio de radio à l'UNESCO. Alors, de là à penser qu'il y a une radio UNESCO. Eh bien oui, on en parlera de cette radio. Mais pas seulement, parce que comme il se doit, des émissions variées, mais toutes à la gloire de la radio, vont nous accompagner cette nuit. Alors, je dis à la gloire, n'exagérons pas. Quand même pas, parce qu'il s'agira tout simplement d'émissions de radio parlant de la radio. C'est un exercice un peu narcissique, mais aussi moqueur, parce que vous pourrez entendre, en plus des émissions très documentées, et très sérieuses et très historiques, quelques petites moqueries sur la radio, et vous verrez comment la radio se moquait d'elle-même, ou tout au moins se parodiait, se pastichait dans les années 50. Alors, la radio s'écoute, mais elle se lit également, elle se feuillette comme une revue, et pour cause, il y a une revue papier. Nous avons donc rendez-vous plus tard dans la nuit avec Sandrine Trainer, directrice de France Culture, pour évoquer Papier, la revue de France Culture. Le numéro 27 est en kiosque et en librairie depuis déjà quelques semaines. Le numéro 28, patience, sortira le mois prochain. Alors, Moez Chakchouk, la journée mondiale de la radio, elle vient de se terminer. En tout cas, elle se termine en France puisqu'il est minuit passé. Mais dans le reste du monde, en tout cas en Amérique, elle n'est pas terminée. On ne va pas faire un bilan, c'est beaucoup trop tôt. Mais vous pourrez peut-être, au contraire, nous dire ce quoi a consisté cette radio dans l'esprit. C'est la 8e édition de cette journée mondiale de la radio parrainée, patronnée par l'UNESCO.
Ben, nous sommes ravis. Merci beaucoup pour l'invitation et merci d'être parmi nous aussi pour fêter la journée mondiale de la radio. Je pense que c'est un événement très important pour nous parce que c'est dans le cœur de notre mandat. La radio permet, nous, dans le cadre de notre mandat, notamment pour promouvoir la liberté d'expression, la pluralité des médias, la diversification des médias et tout ça, c'est très important, du coup, qu'on donne de l'importance à ce média, parmi d'autres, bien sûr. Donc la journée mondiale, on a eu des activités partout dans le monde, comme on l'a déjà fait auparavant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos bureaux siègent, ils sont tous mobilisés pour aussi donner des interviews à la radio. Et je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui en tant que sous-directeur général chargé de la communication et de l'information. La radio, donc, pour promouvoir le dialogue et la tolérance et la paix, ça, c'est le thème de cette année.
C'est le thème de l'année, oui.
Exactement. Nous avons vu que l'importance qu'on donne à la radio, non seulement parce que c'est un média qui est proche des gens, ça, c'est un média qui a été préféré, en fait, pendant des années et des années par le public. Et aussi, c'est un média, alors du numérique aujourd'hui, qui connaît des bouleversements importants. Parce qu'on sait que, même, il y a cet esprit où on écoute la radio, on participe à la radio et on garde notre, à un certain moment, et pendant notre participation, une certaine liberté, mais également une certaine vie privée. Parce que c'est ce qu'on n'a pas généralement quand on fait à l'art du numérique.
Alors, donc, vous avez dit le thème de cette année. Finalement, il faudrait peut-être être un petit peu pédagogique quand même, comme ça. C'est pas gênant de nous rappeler ce qu'est l'UNESCO. Parce que peut-être que des auditeurs l'ont un petit peu oublié. C'est un bâtiment donc dans Paris. C'est un organisme, une institution mondialement connue, c'est, évidemment. Mais
ben, c'est l'organisation des Nations Unies qui pour l'éducation. Donc, et la science et la culture, ça c'est le nom de l'UNESCO. Mais si on regarde un peu dans le mandat, bien sûr on fait la promotion de tout ce qui est éducation, c'est notre principal mandat, les sciences et la culture, mais aussi on a l'accès à l'information. Comment on donne accès à la société, en fait, aux sociétés dans le monde, au savoir, l'accès au savoir, l'accès à l'information qui est aujourd'hui primordial pour promouvoir les sociétés. Nous, dans notre rôle, donc par rapport à l'éducation, on a beaucoup de programmes qu'on fait avec les États membres pour faciliter, améliorer l'éducation et la formation des gens. Également, par l'éducation, on a montré, on démontre toujours en fait que l'éducation peut être un vecteur de changement. Et ça a été toujours été pour combattre le message de la haine, pour combattre le message, l'extrémisme violent. Il y a eu beaucoup de choses qu'on peut faire via l'éducation. La culture, vous savez très bien, ça, c'est le label phare, en fait, l'UNESCO. Tout le monde connaît l'UNESCO à travers l'héritage culturel, l'héritage immatériel et tout ça. Donc, c'est vraiment une des missions fortes de l'UNESCO. La science, les chercheurs, l'importance de la science, l'importance de promouvoir la science qui a été toujours vecteur du changement. Donc, l'UNESCO, réellement, de cette organisation des Nations Unies, elle fait la promotion en fait du changement dans les États membres, et ça c'est quelque chose qu'on voit tous les jours dans nos activités.
Alors pratiquement, ça a été donc via la radio. Il y a une radio UNESCO. Alors on va recevoir plus tard dans la nuit trois personnes qui travaillent à l'UNESCO et qui sont très impliquées dans cette enquête sur la radio UNESCO, puisque voilà, nuit de la radio. Et on va parler d'une radio un peu disparue, un peu éteinte. C'est particulier de parler d'une radio qui n'existe plus, mais qui a quand même marqué le monde entier, parce que les auditeurs de France Culture n'ont peut-être jamais entendu un programme de radio UNESCO s'ils n'ont pas quitté la France, mais il y a beaucoup de gens qui habitent en France et qui ont vécu sur tous les autres continents au-delà de l'Europe, bien entendu, et qui ont entendu des émissions de la radio UNESCO. Mais on en parlera avec eux, avec Adama Pam, qui est directeur des archives et des bibliothèques, Vincent de Fourny, qui est directeur du secteur des relations extérieures et de l'information du public, et puis Giovanna Hendel, qui est chef du projet de numérisation des archives de l'UNESCO. Parce que c'est important quand même de numériser tout ça. Il y a des trésors ici dans les bâtiments de l'UNESCO, dans les sous-sols. Je me suis promené un petit peu perdu. Enfin voilà, c'est des kilomètres.
C'est immense, hein.
Des kilomètres de bandes magnétiques. Mais les bandes magnétiques, c'est un petit peu le passé. Et j'imagine qu'au début, c'était des disques. Et puis après, les bandes magnétiques. Ouais. Aujourd'hui, ça va être les fichiers numériques. Et ça sera plus simple, finalement. Voilà, comment justement la culture, la science, tout ça, ça va pouvoir se transmettre dans le monde entier.
Oui, on a créé, on a participé, on a soutenu plusieurs communautés pour créer des radios communautaires, en Afrique notamment. Je peux citer un exemple, au Congo, on a créé des radios aussi au Maroc récemment. Il y a eu des créations de réseaux communautaires. On vise en 2019, à l'occasion de l'année internationale des langues autochtones qu'on fête cette année, 2019. A créé également une radio pour le peuple autochtone. Une radio au moins, et ça c'est très important, c'est très symbolique. Je pense que la radio, et nous avons déjà expliqué à quel point nous tenons à ce qu'on continue à promouvoir la radio dans le monde, dans plusieurs pays, dans les pays où également il y a des difficultés de diversification de médias et pour promouvoir les libertés d'expression.
Mais donc, c'est toujours, notre rôle. Oui, mais vous êtes toujours bien accueilli dans ce rôle, justement. Est-ce que...
Bien évidemment,
bien évidemment, c'est ça pourrait être le contraire.
C'est notre mandat, mais notre mandat aussi, on a des challenges au quotidien. Et donc ces challenges-là, on les porte et on essaye, bien sûr, avec notre savoir-faire, avec nos relations, avec tout ce qu'on peut apporter à ces peuples, à ces communautés, de leur permettre de créer une radio, et avec toutes les contraintes, bien sûr, autour de la création d'une radio communautaire qui dépend d'un pays à un autre. Ce qui est important également à mentionner, c'est que vis-à-vis de notre mandat également, on a un programme au sein du secteur communication et information d'ailleurs, par rapport au patrimoine documentaire et les archives. Là, c'est la mémoire du monde, ça c'est la mémoire de toutes les sociétés en fait. Et donc l'UNESCO, on a un programme phare qu'on réalise, c'est le programme mémoire du monde, donc on enregistre en fait l'héritage documentaire qui est très impressionnant, pas uniquement à l'UNESCO, vous avez parlé des archives de l'UNESCO, mais il y a des archives dans le monde. Et ces archives, en fait, nous, on pense on soutient dans le cadre de ce programme sa numérisation et la préservation de cette archive et la valorisation, parce que c'est l'accès à l'information, réellement. Si on veut savoir comment ça a été cette radio, par exemple, à l'UNESCO, ben, j'aurais bien aimé voir un accès à un document qui est public, qui est en ligne, via Internet, bien sûr, qui vous permet de raconter l'histoire de cette radio. Et ça, c'est très important. Et les citoyens, même s'ils n'ont pas vécu cette période-là, et aussi bien en France qu'ailleurs, peuvent avoir des informations sur cette radio nostalgique de l'UNESCO.
Dont nous parlerons plus tard dans la nuit, donc, Moïse Salchouk. Vous êtes là depuis 9 mois, vous nous avez dit, alors, où étiez-vous? Que faisiez-vous auparavant ?
Bon, je travaillais pour le gouvernement tunisien, donc j'ai eu pas mal de postes. J'étais PDG de la Poste tunisienne pendant 3 ans avant d'atterrir ici à l'UNESCO. Mais bon.
Alors vous êtes un spécialiste de quoi, des podcasts, de la technologie.
Tout ce qui est technologie, tout ce qui est numérique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les radios, la version numérique DAB+, qui va se lancer. D'ailleurs, notre radio temporaire qu'on va créer, elle a diffusé aujourd'hui en fait, donc en DAB+. Ce qui est très important à remarquer. Donc l'apport de la technologie, il est fondamental. Et à travers mon expérience, en fait, j'ai toujours été côtoyer les changements du numérique, et c'est très important, en fait.
Alors, vous êtes là depuis 9 mois, je le répète. Est-ce que vous avez visité l'UNESCO quand vous êtes arrivé?
Oui, j'étais très agréablement accueilli, et il y a beaucoup de choses à voir, et nous apprenons tous les jours.
Alors, vous savez, sur la radio UNESCO, il y avait un magazine de l'UNESCO, et sur l'une de ces émissions avait été diffusée une visite de l'UNESCO. Alors, pour les auditrices et auditeurs de France Culture qui n'ont pas vécu cette visite, eh bien, on va pouvoir en écouter un extrait.
Bienvenue à l'UNESCO. Les bâtiments que vous allez visiter ont été construits sous la direction de 3 architectes internationaux. Marcel Breuer, l'Américain, Pierre Luigi Nervi, qui est italien, lui c'est l'ingénieur, le grand spécialiste mondial du béton. Le bâtiment des conférences que vous allez visiter tout à l'heure porte particulièrement sa marque. Et enfin, Bernard Zerfus, architecte français. Vous savez que, premier Grand Prix de Rome, vous savez que Bernard Zerfus a déjà construit les usines Renault à Flins, et qu'en collaboration avec messieurs Camelot et de Mailly, il est un des 3 architectes du CNIT, le palais des expositions à la Défense. Ces 3 architectes ont été aidés dans l'élaboration du projet par un groupe de 5 autres architectes mondialement connus. Lucio Costa, Brésil, Gropius, États-Unis d'Amérique, Markelius, Suède, Rogers, Italie, Corbusier, France, Suisse, et Feu Sarinen, un Américain d'origine finlandaise. Avant de commencer à construire, les architectes devaient observer certaines servitudes. Lesquelles? Eh bien, comme vous en rendrez tout à l'heure compte du 7e étage, il devait respecter la perspective depuis le palais de Chaillot, la tour Eiffel, le champ de Mars, et fermer le demi-cercle que vous avez ici, demi-cercle qui avait été dessiné par Gabriel en 1752, il y a plus de 200 ans, lorsqu'il construisit l'école militaire, et très important, il ne fallait pas dépasser une hauteur limite imposée par la commission des sites de 28,50 m. Si vous ne saviez pas déjà vous trouvez dans un bâtiment international, vous pourriez parfaitement vous en rendre compte en examinant les matériaux utilisés ici. En effet, la plaque en bois sur laquelle vous appuyez pour ouvrir la porte, c'est du bois de teck de Java, posé par une entreprise allemande de Stuttgart sur une porte en glace française, coulissant sur des sols en quartzite de Norvège, posé par un groupement d'entreprises françaises et italiennes, tandis que dans le bâtiment des congrès, tout à l'heure, vous aurez des sols recouverts de liège portugais. Nous appuyons ici à des murs en aluminium anodisé belge. Et les appareils d'éclairage proviennent des États-Unis d'Amérique. Ils ont été montés par une entreprise française. Et en cas de panne, nous avons un groupe électrogène tchécoslovaque. Enfin, bien entendu, les glaces sont françaises. À votre droite, une statue de Henry Moore, sculpteur britannique. Silhouette d'or beau. Elle a été taillée dans du travertin romain. Silhouette féminine, bien entendu, messieurs. À votre gauche, dans les Espagnols, Miro et Artigas, le mur du soleil. De l'autre côté, le mur de la lune. On peut donc dire mur des contrastes, puisque vous avez contraste au point de vue dessin, mais contraste également au point de vue procédé d'exécution. En effet, les 480 pièces de céramique ont été cuites dans un four à bois. Procédé ancien, le four à bois, mais qui donne toujours d'excellents résultats pour ce qui est des couleurs. Tandis que pour obtenir la patine des rouges et des verts, on a utilisé de l'oxyde d'uranium. Ces deux murs ont obtenu le prix Guggenheim en 1958 pour les plus belles céramiques modernes des 2 dernières années.
Extrait d'une visite au pas de course des bâtiments de l'UNESCO enregistrés pour le magazine de l'UNESCO au cours des années 60 et diffusé dans le monde entier, j'imagine. Alors, est-ce qu'on visite encore l'UNESCO en dehors des journées du patrimoine, Moïse de Chakchouk?
Ah oui, j'ai assisté cette année à une journée porte ouverte. C'était très intéressant parce qu'on ouvre les portes aux tous les Français, les Parisiens et les Parisiennes qui viennent en fait visiter, donc appréciant en fait les œuvres d'art notamment, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, une collection impressionnante en fait d'œuvres d'art à l'UNESCO.
Alors, vous n'aviez pas eu droit à cette visite-là, à ce genre de visite?
Mais... Ah, peut-être on doit l'organiser quand même.
Bon, vous l'organiserez en septembre.
Même ce soir.
Pas cette nuit en tout cas. Alors, de toute façon, les auditeurs des Nuits Transculturelles vont pouvoir se replonger aussi dans les lieux de l'UNESCO, mais pas vraiment, à Valoris, puisque après notre entretien, ils pourront retrouver Picasso à Valoris. C'était une émission diffusée sur Radio UNESCO, ou grâce à Radio UNESCO, enfin, faudra préciser tout cela, en mars 1958. On écoutera une autre émission aussi de Radio UNESCO, qui était consacrée à l'Afrique face à l'Orient et face à l'Occident. Elle réunissait Edgar Faure, qui était alors un ancien président du Conseil de la République française, Indira Gandhi, qui était une future première ministre de l'Inde, et puis Albert Rakoto Ratsimananga, qui est un scientifique malgache, et Mohamed El Fassi, qui est un intellectuel et homme politique marocain. Et puis, plus tard dans la nuit, à la toute fin de notre nuit de la radio, eh bien, avant de vous retrouver encore, eh bien, on écoutera une émission consacrée au sauvetage d'Abou Simbel, la vallée du Nil, tout ça grâce à l'UNESCO. Hein.
C'est très bien.
Voilà. Alors, Radio UNESCO, on en parlera tout à l'heure, c'était la radio de l'Institut de coopération intellectuelle. L'idée, c'était à la conférence générale en 1947, c'était capter et diffuser les idées et provoquer l'action. C'est ça la radio?
Ouais. Ben, visiblement, c'était très très intéressant comme radio, puisque ça véhiculait en fait des messages très importants. Parler du mandat de l'UNESCO, des réalisations de l'UNESCO, mais aussi elle permettait en fait d'essayer, à travers ce message qui était diffusé dans le monde, ce qu'on fait aujourd'hui, hein, à peu près, mais en utilisant d'autres moyens, en utilisant Internet, en utilisant notre présence également sur le terrain.
Sur le terrain. Et vous-même, vous êtes là depuis 9 mois à Paris, mais vous êtes obligé d'aller dans le monde entier. Enfin, obligé, c'est pas une.
Oui,
on a
des activités, mais qu'on essaie de superviser ou en même temps de manager ou également d'être présent parfois pour renforcer ou pour encourager et appuyer.
Oui, parce que votre titre, communication et information de l'UNESCO, ça veut dire en somme.
C'est
pour
le secteur,
Paris ou c'est pour le monde entier?
Ah non, c'est pour le monde entier, oui. En fait. C'est pour le monde entier et notre mandat dans le secteur, ça touche donc à la liberté d'expression, à la protection des journalistes. Donc d'ailleurs pour ça qu'on célèbre en fait cette année, notamment la journée mondiale de la radio. On a célébré aussi 2 semaines auparavant en fait la semaine du son. C'est dans le cadre de ce secteur aussi, c'est lié. On voit bien que les synergies qui existent entre les différents événements qu'on célèbre. Et on utilise ces événements en fait pour promouvoir nos activités. Donc nos activités, à la fin, c'est pour promouvoir la liberté d'expression, le droit de protection des journalistes et les problèmes d'impunité. Mais également, on a des programmes qui sont liés aux données ouvertes, à l'accès à l'information, comment promouvoir les sociétés de savoir. Et j'ai parlé tout à l'heure en fait du patrimoine documentaire et comment préserver et appuyer en fait les programmes des États membres vis-à-vis de la préservation de la mémoire du monde et des archives et du patrimoine documentaire.
Et ces émissions qui sont fabriquées, faites, construites, produites, voilà, dans le monde entier par ces nouvelles radios ou ces radios existantes, est-ce qu'elles voyagent? Est-ce que vous...
Oui, ben, nos activités se peuvent, c'est-à-dire on communique autour de nos activités. Et cette communication, en fait, des radios constituent un vecteur très important de communication qu'on utilise notamment dans les régions où vraiment l'accès aux médias il est un peu difficile, ou également l'accès à l'Internet parfois, parce qu'aussi on traite dans le secteur le développement Internet, le développement de la technologie aujourd'hui. Et donc il y a des contextes où on voit que le développement de la technologie n'est pas... important, et la radio constitue un vecteur de communication très important et de vulgarisation important.
Oui, mais ces radios, on pourrait les écouter aussi. Est-ce qu'on peut les écouter? D'ailleurs, une radio, vous parliez du Congo tout à l'heure, ou une radio au Maroc. Est-ce qu'on peut les écouter sur Internet?
Oui, mais justement, c'est ça l'idée, en fait. Le plus important, c'est de donner
mettre en réseau, quoi.
Cette opportunité, en fait, à ces communautés, en fait, qui sont éloignées, qui sont pas, peut-être, n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas des opportunités pour s'exprimer ou pour avoir accès à l'information. Déjà, création de cette radio communautaire, ça permet, en fait, d'assurer ces objectifs. Deuxièmement, c'est après, c'est créer ce réseau à travers le réseau des radios, d'ailleurs, qu'on fait la promotion aujourd'hui. On a fait beaucoup d'activités, on a parlé de ça. Et qu'on insère donc ces radios communautaires dans un réseau qui permet donc de véhiculer ces messages et de faire en savoir, en fait, les gens, ça existe. En fait, ces radios communautaires, ils ont un rôle important. Et bien sûr, le rôle de l'Internet ici, il est primordial. Aujourd'hui, à travers des applications mobiles, on peut accéder à des radios et des centaines de milliers de radios enfin, dans le monde. Et ça, c'est très important.
Et vous-même, quand vous voyagez, vous les écoutez, ces radios?
Ah oui, mais c'est à travers les applications.
C'est votre vie à écouter la radio?
Pas toute notre vie, mais au moins, quand on a besoin d'avoir des nouvelles, par exemple, dans les pays, parfois, on te lit ça.
Et dans combien de langues, alors? Vous pouvez les écouter vous-même.
Non, mais bon, nous, on maîtrise 3 langues, 4 langues maximum. Donc, du coup, c'est difficile d'avoir accès à tous les radios. Mais certains radios dans un pays, en fait, ça fait parfois... on voit comment c'est diversifié, on voit comment que ces radios fonctionnent également, c'est important. C'est dans le cadre de nos activités. Parce que nous, on a des indicateurs aussi qu'on suit au niveau du secteur par rapport au développement des médias. Et les radios, donc, c'est un chapitre dans ces indicateurs. Donc, c'est très important de voir comment ces radios fonctionnent. Est-ce que leur business model également garantissent en fait une certaine pérennité? Est-ce qu'ils sont indépendants? Est-ce que ça, tous ces indicateurs, c'est très important qu'on regarde parce que ça permet de garantir l'environnement le plus propice pour s'exprimer et pour faire circuler les idées.
Il n'y a pas de censure? Les pays
évidemment, oui, mais il y a certains pays où nous on connaît en fait, on sait de s'adapter pour pouvoir adresser ces priorités. Mais le plus important pour nous, c'est que quand même comment supporter, comment aider les États membres à évoluer, à améliorer la situation. On sait que c'est pas facile dans certains États membres vu le contexte politique ou le contexte historique également, le contexte économique. Mais on s'adapte en fait et on sait quand même, on a beaucoup d'expérience dans ces créneaux-là.
Vous êtes diplomate.
Non, de formation non, mais bon, là on a appris, on apprend.
Je crois qu'il faut apprendre la diplomatie quand on est à l'UNESCO, j'imagine.
Mais c'est évident.
Oui. Alors, ces radios, alors elles sont multiples, elles sont très variées, j'imagine, et tant mieux, mais c'est des radios où l'on parle beaucoup, c'est des radios où il y a de la musique, il y a de la distraction, il peut y avoir un peu de tout.
Eh ben, je pense que les radios, c'est très important de s'adapter et d'avoir des émissions aussi diversifiées que possible. Parce que les gens qui écoutent la radio, ils ont besoin aussi de cette diversité. Parce que sinon, on va rester cloisonné en fait, dans un type de message ou un type d'émission. Je pense que la diversification du contenu, c'est très important. Et on l'a vu, les radios qui ont réussi en fait, à donner des informations au public et en même temps à diversifier leurs émissions pour que ça soit le plus divers que possible, c'est vraiment, ils ont réussi. Et bien évidemment, il y a certaines réussites, bien sûr, qui doivent être accompagnées avec le développement technologique.
Ça ne peut pas être que des radios de service, parce que ça serait un peu limité le principe, voilà, pour donner des informations, ce qui est très important, j'imagine, mais ça ne peut pas être que ça. C'est aussi quand même des radios
des débats, de promouvoir le dialogue, essayer de vulgariser les différentes réalisations au sein d'un pays, également parler des communautés, en fait, qui existent, et notamment les communautés qui ont tendance à être oubliées ou éloignées, notamment les peuples autochtones. C'est pour ça que je parler pour la deuxième fois d'ailleurs, c'est très important pour nous de considérer à donner une opportunité aux peuples autochtones pour vulgariser leur langue déjà, pour que leur langue ne soit pas éteinte, parce que ça on leur donne une opportunité de s'exprimer. Et je pense que c'est la radio qui pourrait être un facteur de développement de cette expression et de ces langues-là. Et en même temps, je pense que ces peuples autochtones ont le droit aussi à véhiculer des informations au sein de leur communauté.
Alors, eh bien, écoutez, on va poursuivre cette nuit de la radio. On vous retrouve tout à l'heure, si vous voulez bien. Picasso à Valoris, une radio pastiche, le gala de la TSF, puis l'Afrique face à l'Orient et face à l'Occident, le cinquantenaire de la radiophonie, c'est une émission de 1972 de Pierre Gillon, un rendez-vous à 5h, une journée à la radio, un condensé de Jean Lec, ça c'était joué par... C'est aussi dans le genre moqueur. Les États-Unis de l'esprit, le miracle des ondes, une émission de 1946. On retrouvera Sandrine Trainer, donc la directrice de France Culture, venue nous parler de Papier, la revue de France Culture, puis un radio pastiche, puis une tribune de Paris qui se posait la question. Paul Guimard l'a posé la question en 1948 sur la chaîne nationale. La radio, information ou propagande. Et puis, on a rendez-vous avec Adama Pam, Vincent de Fourny et Giovanna Hendel pour parler de Radio UNESCO, cette radio qui a vécu ici, un peu ailleurs aussi, dans Paris. Enfin, elle n'est pas née dans Place de Fontenoy, mais on en saura plus. Et puis, une émission sur Édouard Branly, évidemment. Une autre sur, ça sera la dernière, sur la sauvegarde des temples de la vallée du Nil dans l'émission À l'échelle de la planète, le magazine de la rédaction, donc, de l'UNESCO. Une émission de 1963. Et puis, on vous retrouvera donc en toute fin de nuit, Moïse Tchakchouk, pour, voilà. Encore une fois, pas vraiment le bilan, mais il faut que vous nous reparliez de la radio tout à l'heure. Écoutez bien, l'essentiel, c'est d'écouter la radio et de l'aimer.